Mobile studio.
Studio mobile, Radio Dua, ici à Pompompom.
Bonjour Christelle.
Bonjour Baptiste.
Christelle, comment tu es? Est-ce que tu veux donner ton nom de famille à la radio?
Oui, je peux, c'est Christelle Chomel.
Tu es basée à Die, à Chapia, ouais. Et tu fais des sorbets paysans sur ce Tous en Botte.
C'est ça. Je suis là aujourd'hui à Tous en Botte, ouais.
Alors bon, Tous en Botte, c'est des gens qui sont parfois un peu militants, etc. C'est quoi ton côté militant à toi?
Mon côté militant à moi, bah, ce serait... je sais pas, non, je suis pas dans le côté militant.
Non, et même je pas suis... dans les sorbets?
Est-ce qu'on peut appeler ça du militantisme? Je ne sais pas. En tout cas, j'essaye de proposer des bons produits. Voilà, de faire en sorte que respecter ce qu'il y a autour de nous, qui font en sorte que ces produits restent bons. C'est peut-être ça le côté militant, c'est de faire en sorte de préserver ce qu'il y a autour de nous pour continuer à proposer ce genre de produits. Ouais.
Alors, on va les décrire un petit peu, mais aussi d'abord, comment tu t'en viens à faire des sorbets?
Au début, le tout début du projet, c'est plutôt une envie d'être dans une activité agricole, donc me rapprocher un peu de la terre et de l'activité agricole. Donc j'ai fait plusieurs formations, et une formation en pluriactivité d'abord au CFPPA de Die. Avant ça, j'ai été pas mal ouvrière, on va dire, employée agricole. Donc déjà, je me rapproche un peu du monde agricole comme ça. Après, j'entame une première formation, pluriactivité au CFPPA de Die. De là, le projet se confirme un petit peu. Je me rapproche pas mal des plantes aromatiques et des fruits. Et de là, j'ai la chance donc, de trouver à Chapia un bout de terre, 5000 m². Et de là, j'entame un BPREA, donc sur la transformation, enfin en tout cas sur la culture au départ de petits fruits, arbres fruitiers, plantes aromatiques. Et durant ce projet, j'essaie de savoir comment je peux valoriser ce produit-là, en sachant que ce qui m'intéresse, c'est de garder une petite surface de culture. Donc, il fallait valoriser le produit pour. Et en tâtonnant un peu ce qui était possible, sirop, confiture, tisane, etc., j'arrive sur le produit du sorbet, donc, qui m'accroche comme ça à la base. Et je me forme, je rencontre des gens qu'on fond un petit peu. Et puis, ça accroche direct, et voilà. Donc c'est le produit que je choisis de transformer en sorbet.
Donc sur ces 5000 m², il y a toutes les essences proposées dans tes sorbets?
Alors pas encore.
Pas le gingembre quand même?
Non, ouais non. Alors c'est vrai que dans tous les produits que j'utilise pour faire ces sorbets, c'est essentiellement que des produits du Diwa. Alors il y en a une partie qui est produite sur les terres à Chapia, une autre partie qui est glanée chez les autres producteurs du coin, une autre partie qui est cueillie en nature, en pleine
sauvage,
nature,
ouais.
Voilà, cueillette sauvage. Et une partie que j'achète chez un producteur qui est donc la pêche et l'abricot, parce que c'est impossible à glaner. Et voilà, en sachant que j'ai quand même planté un verger, planté pas mal d'essence, mais le temps que ça donne, moi ça fait 4 ans que je suis installée. Donc j'ai commencé mes premières cultures, donc il faut un peu de temps pour que tous ces produits, toutes ces cultures donnent. Donc en attendant d'être... voilà, en attendant que par exemple les arbres fruitiers donnent, ben je glane pas mal chez les voisins. Voilà. Mais sur la parcelle, il y a quelques essences qui donnent, ou quelques fruits ou quelques plantes, notamment les petits fruits. Groseille, cassis, fraises, mûres. Voilà, ça donne déjà, ça produit déjà, ça offre.
Le Diwa, d'ailleurs, avait une tradition quand même un peu. Il y avait beaucoup d'arbres à une période, fruitiers, l'abricotier, le pêcher. Normalement, ouais. C'est quelque chose qui tient ici.
Eh bien, écoute, alors ça a été arrêté comme culture, parce que j'imagine que quand tu fais une production en grosse quantité, eh bien, il faut que ça soit réellement rentable. Et que j'imagine que pour ces raisons-là, à un moment donné, ils ont trouvé que ça valait plus le coup et ils les ont arrachés. Sauf que finalement aussi, tu peux choisir soit du précoce, soit justement si tu crées un peu les gelées, plutôt des tardifs. Donc tu peux aussi, avec les variétés un peu différentes, t'acclimater de ce qui, voilà, du temps qu'on a ici, et puis essayer de mettre des essences qui vont bien dans le climat d'Iwa, quoi.
Du coup, t'en as planté un peu de ça aussi?
Et j'en ai planté. J'ai pris le risque de mettre de l'abricot, de la pêche. J'essaye même des essences un peu particulières. Là, j'ai planté du figeoa, qui est une variété de fruits de la passion, mais qui supporterait les négatifs. Donc voilà, j'essaye différentes choses. Voilà, dans le vallon de Chapia, j'ai des parcelles qui sont un peu orientées différemment. Donc voilà, j'essaye de tester des choses. Voilà.
Alors le truc du coup intéressant, c'est que ces essences que tu viens de nous citer ne sont pas là au même moment. Donc les sorbets évoluent en fonction des saisons.
Alors pour beaucoup de parfums, effectivement, je ne peux pas les conserver. Donc ça, c'est vraiment sur le moment.
Par exemple
Par exemple, la fleur d'acacia. Là, j'ai aujourd'hui, en première, pour tous en bottes, il y a un sorbet de fleur d'acacia qui a été cueilli il y a 2 jours, tu vois. Même si je m'y prends un peu tard, mais il est encore bien là et puis bien parfumé. Et celui-là, je ne le conserve pas, la fleur. Si on la garde et qu'on la sèche, elle n'a plus son parfum, donc je la transforme de suite. Mais il y a d'autres plantes comme la menthe, la mélisse, l'estragon, que je peux conserver en sec et que je réutilise une fois sec, voilà. Donc celle-là, je peux la conserver toute l'année. Et les fruits, pareil, des fruits qui se congèlent, je peux les transformer au fur et à mesure de la décongélation. Et la fraise, par exemple, que je ne peux pas congeler, ben, elle, par contre, c'est la fraise de saison, quoi. S'il y a du sorbet de fraise, c'est qu'on est en saison de fraise. Voilà, donc ça dépend un peu. Si je peux les conserver, ça peut s'échelonner sur l'année. Si ce n'est pas bon à la conservation, on ne l'aura que pendant la période de fructification.
Du coup, super question. Alors donc, pour faire du sorbet, on peut conserver. Il faut conserver les fruits, en fait. Moi, je pensais que tu les transformais puis que tu conserves le bac de glace pendant.
Ouais, mais alors ça veut dire que comme tous les fruits arrivent en même temps, je passe 24 heures à transformer et les 24 heures d'après, je vends. Non, concrètement, c'est compliqué.
Non, mais tu pourrais pas stocker ton sorbet tout fait, par exemple.
Oui, mais pour le stocker tout fait, il faut que je le fabrique. Et donc, comme tous les fruits arrivent en même temps, c'est beaucoup plus simple de couper ton fruit, de le laver, de le couper, de le mettre au congèle et puis de les sortir au fur et à mesure pour les transformer. Parce que si je cueille 20 kilos de coin et en même temps je fais 20 kilos de. Enfin, je dis un fruit qui arrive en même temps que le coin. Tu vois, enfin tout arrive.
La pêche, la poire.
Voilà, la poire, ça veut dire que si je fais dans la même journée 60 kilos de fruits, je peux pas, j'ai pas le temps de tout transformer avant que le fruit se gâte, quoi. Donc, et puis ça permet en plus. Et puis tu conserves plus facilement un fruit congelé qu'un sorbet. Le fait que je ne mette pas de conservateur, bien sûr, que j'essaye de baisser le taux de sucre, ce qui peut permettre à un sorbet de se garder dans le temps. Bah, du coup, mon sorbet a une DLU assez courte aussi, alors que j'arrive à conserver plus dans le temps le fruit que le sorbet. Donc je préfère fabriquer au fur et à mesure de la demande ou des besoins. Voilà.
C'est quoi la demande ?
En ce moment ?
Non, mais du coup, toi, c'est quoi ta. Qu'est-ce que c'est ? Que tu dis de la demande ou des besoins, c'est-à-dire, est-ce que tu fournis des magasins et puis tu fais des marchés?
Voilà, alors je distribue en magasin de producteurs, je fais pas mal de marchés comme celui-ci, des foires, je fais le marché nocturne, je fais un peu de publicité, le marché nocturne de Blinglon, tous les jeudis soirs pendant juillet-août, voilà, qui va reprendre dès juillet. Donc voilà, je fais des marchés comme cela, je vends aussi en vente directe à la maison le mercredi après-midi. Voilà, donc ça, on peut venir carrément...
À la ferme.
À la ferme. Alors, c'est pas à Chapia, c'est sur la route de Saint-Sornin, l'ancienne route de Marignac. Là, j'ouvre depuis l'année dernière tous les mercredis après-midi à la vente directe. Donc, en fait, la demande, elle est là, ponctuelle. Donc, ça veut dire les besoins et les envies qu'ont les magasins de producteurs en fonction de leur vente. Quoi. Il y a des pics, hein, de toute façon. En mai, dès que les beaux jours arrivent, ça y est, il y a de la demande. Et ça s'échelonne jusqu'à septembre, voire un peu jusqu'en octobre. Après, ça peut revenir un peu pendant les fêtes, parce que c'est quand même un dessert qui fonctionne bien pendant les fêtes. Et voilà, on va dire que ça, c'est le gros pic d'activité en vente et en consommation, quoi, du coup. Et après, sur certains magasins, ça se vend quand même un peu toute l'année, mais c'est des petites quantités, quoi.
On peut te trouver dans quel magasin, par exemple ?
Alors, localement, on peut me trouver un petit peu à la Carline, plutôt sur les sorbets de plantes. On essaye d'avoir plusieurs parfums, enfin, la Carline a choisi d'avoir plusieurs parfums en rayon, donc il y a déjà des producteurs de fruits, donc bien, je viens compléter la gamme en plantes. Ou sinon, on peut le trouver au Bar à Boc à Minglon, donc, avec toute la gamme de fruits et de plantes. On peut me trouver au Bar à Vin de Poney, qui est table d'hôte et chambre d'hôte. Et donc voilà, on peut trouver les sorbets à déguster sur place. On peut trouver depuis dernièrement au bar à vin aussi à Saint-Julien-en-Quin.
Au Badin.
Voilà, il y a plein de petites choses. C'est dommage parce que du coup, je vais risque d'en oublier, mais il y a un super petit camping, une aire naturelle qui se trouve au Pradel. Voilà, c'est le moulin du Pradel. C'est un petit camping, mais alors trop bien. Ils font toute leur bouffe maison avec leur petit potager. Enfin, c'est génial.
Et tu choisis un peu d'ailleurs où tu vas ou tu répondrais oui, tu dirais oui.
Je peux. Il y a pas mal de demandes. Du coup, je sélectionne un peu, j'avoue.
Ça aussi, c'est militant alors.
Ben, peut-être. D'ailleurs, j'ai accès.
Tu as cité là, par exemple.
Oui. Et alors, j'ai oublié quelqu'un parce que je les ai fournis pour la première fois, même s'ils me prennent des sorbets depuis un petit moment pour leur repas collectif. Dernièrement, je suis en dépôt-vente chez eux. C'est le monastère de Sainte-Croix. Donc voilà, avec Viviane et Fred là, qui apprécient le sorbet depuis un moment. Et cette année, ils ont décidé de mettre un petit dépôt-vente de petits pots individuels. Donc eux aussi, je suis ravie que mes produits soient là-bas. Parce que voilà, effectivement, j'adhère tout à fait à ce qu'ils font. Donc oui, est-ce que ça, c'est un côté militant? Peut-être, certainement. Oui.
C'est moi qui te titille.
Mais je crois que des fois, on est un peu militant sans même s'en rendre compte, parce qu'on suit juste ses convictions et qu'on devient militant comme ça, ouais.
Donc on a entendu pas de conservateur, mais il paraît qu'il y a une législation maintenant là-dessus. Par contre, tout est bio.
Alors je ne suis pas labellisé bio, je suis labellisé nature et progrès. Alors je ne sais pas ce qu'on entend par tout est bio, mais en tout cas voilà, j'ai pas le label bio, j'ai le label nature et progrès. Donc il y a un label indépendant et on est quelques-uns d'ailleurs sur la foire à être nature et progrès. Voilà, donc je suis ravi de faire partie de ce réseau-là aussi.
Ça veut dire voilà sur tes cultures en tout cas.
Sur les cultures et sur les sorbets, je suis labellisé sur les deux. Donc voilà, on est des auto-contrôlés, on s'auto-contrôle et on contrôle les uns et les autres. Et c'est surtout un réseau d'échange aussi beaucoup, où on est tout le temps, on se remet tout le temps en question. Ça, c'est vraiment un chouette procédé aussi d'être tout le temps, on se remet en question pour améliorer et l'environnement, et les produits, et les circuits courts. Enfin, ça rentre vraiment dans une démarche aussi globale. Voilà.
Bon, faut pas lâcher les recettes, mais est-ce que tu as un truc, toi, est-ce que tous les sorbets sont pareils? Je veux dire, d'un sorbetier à l'autre. Hein.
Ah, bah, j'imagine que non, parce qu'on... Après, on joue essentiellement sur la texture aussi, beaucoup. Le taux de sucre, le taux de fruits.
La texture, on comprend pas comment, avec de l'eau et de la glace, comment ça me fait que c'est moelleux, comme ça.
Alors... C'est sûr qu'il y a une différence entre le sorbet et la glace.
Ouais, ça c'est la crème, c'est ça, je
crois. Voilà, la glace, tu vas intégrer soit du blanc d'œuf, soit une crème, soit un lait. Ça peut être du lait végétal, hein, cela dit. Mais il y a quand même une base de lait ou de matière qui va émulsionner, quoi, qui va donner un côté onctueux. Dans le sorbet, donc, il n'y a rien de tout ça. La base, c'est, en tout cas pour un sorbet de fruits, c'est du fruit, donc la pulpe, et une base de sirop de sucre quand même. Et pour que ça se tienne, alors là je donne un peu cours, un peu théorique, mais pour que ça se tienne, il faut que tu aies une matière sèche. Donc tu vas l'apporter avec le sucre. D'accord ? Donc si tu veux que ton sorbet soit pas trop sucré et qu'il se tienne quand même, alors moi je rajoute de la farine de gomme de carob.
Voilà. Parce que c'est pas un secret de fabrication, j'espère.
Non, parce que je crois que de la carob, il y en a dans tous les sorbets. Même dans les sorbets industriels, je pense qu'ils mettent un peu de carob. Plein d'autres choses aussi, mais en tout cas, ils mettent aussi un peu de carob. Donc nous, on en met, et dans les sorbets de plantes aussi, parce qu'il y a encore moins que dans les sucres, dans les fruits, dans les plantes, il n'y a absolument aucun apport de sucre. Donc pour ne pas mettre trop de sucre, tu en mets quand même un petit peu et tu complètes avec de la gomme de carob. Après, c'est aussi pour ça que les sorbets que je fais se conservent moins, parce que j'essaye de baisser le taux de sucre au maximum. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, comme il n'y a pas cette émulsion-là, eh bien, si je les garde trop longtemps au congélateur et que je les sors, ils vont cristalliser. Bon, voilà, ça, il faudra se renseigner un peu plus.
Cristalliser, c'est-à-dire qu'ils deviennent glaçons, quoi.
Ouais, ça devient de la glace pilée, tu vois.
Ouais.
Voilà.
Super dur à manger, d'ailleurs.
Bah, c'est moins sympa sur un cornet, ouais.
Voilà. Bon, t'as envie, Christelle, de la transfo, de la vente de tes fruits par le sorbet?
J'en vis. Je vis avec pas grand-chose, donc j'en vis, ouais.
Ça va alors.
Parce que je me contente de peu. Ouais. Mais ouais, voilà, c'est un début. J'estime que ça fait 4 ans que je suis installé. C'est un tout début. Je suis encore en train de. Je suis encore dans l'installation. Ouais.
Et donc tout passe exclusivement dans tes sorbets, finalement.
Tout. Je fais que du sorbet. Ça m'arrive de manger
pas, quoi,
un peu.
Dire, tu vends pas de fruits.
Je vends pas de fruits, ouais. Il y a de la demande, hein, par contre. Il y en a qui veulent se lancer dans la production de fruits dans le Diwa. Il y a énormément de demandes de fruits. Comme je suis répertoriée en tant que productrice de fruits, je suis harcelée de coups de fil chaque début de saison pour savoir si je peux pas leur vendre 300 kilos de fraises.
Pour faire des sorbets.
Ah non, je pense pas qu'avec 300 kilos. Ouais, peut-être. Ah non, la concurrence arrive. Non, non. Mais en tout cas, il y a marché à se faire sur de fruits sur le Diwa, ça c'est sûr. Et puis voilà, donc j'en mange un peu moi de temps en temps, bien sûr, quand je suis dans les rangs et que je cueille. Tout passe pas en sorbet. Des fois, ça vient un peu dans le panier pour la maison, mais sinon, ouais, je transforme tout en sorbet.
Bon, et ta marque, c'est Sorbet Paysan.
C'est Terre du Vallon.
Ah, voilà. Ça va. Du Vallon, donc de Chapia, Terre
voilà,
du Vallon.
Ouais, Terre du Vallon, ça me paraissait être assez, voilà, assez évident, quoi.
On te trouve quelque part, t'as de la com, Terre du Vallon,
alors,
un site internet.
À faire ça. Ah oui, alors j'ai fait un site internet, oui, avec mes petits doigts, alors c'est assez basique, mais en tout cas on trouve l'essentiel dessus. Quelques photos, les endroits où on peut me trouver en magasin de producteurs ou en dépôt-vente ou même chez les quelques personnes que je vous ai énumérées tout à l'heure. Et on trouve aussi un petit peu, un petit peu ma façon de faire et un peu l'éthique et un peu, voilà. Un peu les parfums que je propose et mes coordonnées pour venir éventuellement.
Bon, alors on s'allèche un peu. Tu nous dis qu'est-ce que tu as aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui.
En plus, à chaque fois, tu as un discours avec les gens. Ben oui, alors pour faire ça, j'incorpore le zeste à la fin.
Ben les gens s'interrogent alors forcément. Ben oui. Mais c'est génial ça. Du coup, là aujourd'hui, on a. Hop. Je propose de la menthe.
Alors, menthe.
Ouais. Hein, non, classiquement.
C'est classique.
Ouais, c'est classique, mais tu vois, là, j'ai mélangé de la menthe poivrée et de la menthe verte.
Ah.
Voilà, alors ça donne un côté chlorophylle et en même temps un peu poivré. Tu vois. Bon, après, c'est jamais tout le temps pareil. Hein. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. Il y a du romarin avec du zeste de citron.
Donc incorporé à la fin.
Voilà, c'est ce que tu as entendu. Je fais une macération de romarin. Je filtre et au dernier moment, j'intègre mon zeste de citron. Ça fait qu'on les retrouve dans le sorbet.
Voilà. À mâcher.
Ouais. À mâcher.
Des petits morceaux.
Voilà, ça reste des fois entre les dents. On a le goût de citron pendant toute l'après-midi. De la cerise, donc que je glane, n'est-ce pas ? Parce que mon cerisier, mes cerisiers ne donnent pas encore. Donc ça, c'est de la cerise que je glane chez un particulier. Et la fleur d'acacia fraîchement cueillie, parce que c'est là, c'est maintenant. Donc tous les amateurs de fleurs d'acacia, c'est maintenant, il faut y aller, parce qu'elle va vite passer. Donc fleur d'acacia qui est cueillie en pleine nature. Mélisse gingembre. Coin, prune sanguine, verveine, anis d'estragon. Donc c'est la base de l'estragon anisé. Voilà, donc j'ai extrait l'anis de cet estragon-là, quoi. Et de la groseille.
Voilà pour aujourd'hui. Un mot sur cette prune, parce qu'elle aussi, elle a une histoire, quand même.
Ouais, alors cette prune...
Tu l'as dit sanguine, toi.
Voilà, à la base, c'est la prune, si vous voulez une bonne prune sanguine. Alors vous pouvez chercher prune sanguine, ça n'existe pas. Il faut aller sur la prune halo, A2LO. Alors, pour
allô.
Allô, quoi, la cerise, elle est où ? Non, la prune. Allô, la prune. Alors, pour tous ceux qui veulent se lancer dans la production de fruits, c'est une prune sensationnelle. En plus, la prune, ça pousse très bien chez nous. Pourquoi se priver ? Donc, la prune Allô, A2LO. Et c'est une prune, effectivement, qui a une connotation hyper fruit rouge, un peu, quoi. Hein ? Non ? Il n'y a pas. La composition, elle a... Excusez-moi, je réponds à une dame qui me demande s'il y a du gluten dans les cornets.
Voilà, et donc il n'y en a pas.
Donc, il n'y en a pas. Ouais.
Ah non, pas dans la glace.
Non, il y a du gluten. Non, vous avez la composition là si vous voulez regarder, mais je vous assure qu'il n'y en a pas. On me l'a posé cette question quelques fois déjà. Voilà, donc ça aussi, c'est...
On n'avait pas encore parlé du cornet, c'est fait.
Vrai, voilà, ça y est, c'est fait. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut aussi se lancer dans la fabrication de cornets...
Ouais. Parce qu'on est tous... Tu les achètes super loin.
Ouais, je les achète super loin. Pour trouver du cornet...
Vegan, sans gluten.
Alors, vegan, ça c'est un mot qui a été... C'est un tampon qui a apparu aujourd'hui sur les cartons, mais ça fait 3 ans que j'achète les mêmes cartons. Le tampon vegan vient juste d'apparaître dessus, mais c'est exactement les mêmes.
Tant mieux, tu peux dire que du coup, maintenant...
Voilà, mais sans qu'il y ait marqué vegan, en tout cas, ils sont bio, sans gluten et que végétal. Voilà. Bon, il paraît que maintenant ça s'appelle vegan, mais.
Ah, et ça vient d'où pour avoir une idée ?
Eh bien, ils viennent d'Allemagne.
Ah,
oui,
c'est toujours les mêmes. C'est comme si on ne sait pas faire ça en France.
Alors, il y en a qui le font, mais ils le font en très petite quantité. Alors, effectivement, je pourrais aller acheter à la Vie Claire mon paquet de 20 cornets bio, quoi. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir rendre accessible la glace mon cornet comme ça.
Bon, la prune à l'eau, la prune à l'eau.
Oui, alors la prune à l'eau. Donc, c'est une prune, effectivement, qui est très précoce, que je n'ai pas trouvé nulle part ailleurs que chez Amalissard. Voilà, chez un particulier qui a ça dans son jardin. Ça
doit être fait rien.
Qu'on fait un petit peu pour lui, mais pas grand-chose. Et du coup, voilà, c'est une prune qui a un jus et une chair très, très rouge. Vraiment sanguine en fait, c'est pour ça que je l'ai appelée comme ça, et qui a un goût très très fruit rouge, voilà, très sanguin quoi. Et dans le
moi,
bac,
c'est celle que j'ai mangée, c'est
elle est géniale, hein. Ouais. Non, elle est dans le bac, elle est super, elle met un peu de couleur au milieu de toutes ces plantes là en plus. Voilà, du coup j'ai choisi de l'appeler prune sanguine plutôt que prune. Voilà.
Bon Christelle, merci.
Et, écoute Mathis, merci à toi.